Chapitre 48. Ce que Monsieur de Montrouge venait faire en réalité chez la brocante. Au moment où le Monsieur de Montrouge, précédé de Babolin, courbait sa longue taille pour ne pas heurter sa tête au chambranle et se glissait comme une fouine par la porte entr'ouverte, Rose de Noël était assise devant une petite table de laque, cadeau de Régina, et s'amusait à colorier des fleurs, cadeau de Pétrus. « Dis donc, Rose de Noël, fit Babolin, c'est un monsieur de Montrouge qui veut te parler. »« À moi, dit Rose de Noël en levant la tête. À toi en personne. »« Oui, à vous, chère petite, dit le monsieur en relevant ses lunettes bleues sur son front, afin de voir l'enfant avec ses yeux qui semblaient plutôt embarrassés qu'aidés par l'interposition des deux verres entre eux et l'objet sur lequel il se posait. » Rose de Noël se leva. Elle l'avait grandi depuis 3 mois, d'une façon extraordinaire. Ce n'était plus l'enfant maladive et rabougrie que nous avons vu rire triperé. C'était une jeune fille pâle, maigre, chétive encore, c'est vrai, mais sa maigreur et sa pâleur venaient évidemment de sa croissance. Transportée dans une atmosphère plus sympathique à son organisation, sa taille s'y était développée. C'était un jeune arbuste fluet et flexible, toujours prêt à plier au moindre vent, mais déjà en fleurs. Elle salua le monsieur de Montrouge et, le regardant avec ses grands yeux étonnés, « Eh bien, monsieur, reprit-elle, dites-moi ce que vous avez à me dire. »« Mon enfant, dit le monsieur de sa voix la plus douce, je suis envoyé par des personnes qui vous aiment beaucoup. »« Par la fée Carita, s'écria l'enfant. » Non, je ne connais pas la fée Carita, dit le monsieur en souriant. Par monsieur Pétrus? Ah, ce n'est point non plus par monsieur Pétrus. Alors, continua Rose de Noël, il faut que ce soit par monsieur Salvator. Justement, dit monsieur de Montrouge, c'est par monsieur Salvator. Ah, mon bon ami Salvator, il m'oublie donc, s'écria la petite fille, qu'il y a au moins 15 jours que je ne l'ai vu. « Ah, c'est à propos de cela que je viens. Mon cher monsieur, m'a-t-il dit, allez trouver Rose de Noël, rassurez-la sur ma santé et priez-la de répondre aux questions que vous lui ferez, comme si elle me répondait à moi-même. » Ainsi fit Rose de Noël sans s'arrêter à la dernière partie de la phrase. « Il va bien, monsieur Salvator. »« Très bien. Quand le verrai-je ? » « Demain, après-demain peut-être. Pour le moment, il est fort occupé. Voilà pourquoi je suis venu en son nom. »« Alors asseyez-vous, monsieur, dit Rose de Noël en poussant une chaise au monsieur de Montrouge. » Quant à Babolin, voyant que Rose de Noël était avec un ami de Salvator et que par conséquent elle n'avait rien à craindre, curieux de savoir d'ailleurs ce qu'étaient devenus Caramel, Babylas, les autres chiens, Farès et la brocante, il s'esquiva doucement, tandis que le monsieur de Montrouge s'asseyait, replaçait ses lunettes sur son nez et aspirait une prise de tabac. Puis, s'étant bien assuré que la porte était refermée derrière Babolin, « Je vous ai dit, mon enfant, continua l'inconnu, que monsieur Salvator m'avait chargé de vous faire plusieurs questions. Faites, monsieur. » « Et vous répondrez franchement ?»« Oh, du moment que vous venez de la part de monsieur Salvator, » dit Rose de Noël. « Voyons, vous souvenez-vous de vos premières années ?» Rose de Noël regarda fixement l'interrogateur. « Qu'entendez-vous par là, monsieur ?»« Je demande, par exemple, si vous vous souvenez de vos parents. »« Desquels ?» demanda Rose de Noël. « De votre père et de votre mère. »« Un peu de mon père, de ma mère, pas du tout. » « Et de votre oncle ?» Rose de Noël pâlit sensiblement. « De quel oncle » demanda-t-elle. « De votre oncle Gérard. »« De mon oncle Gérard ?»« Oui, le reconnaîtriez-vous si vous le voyez ?» Un léger tremblement commença d'agiter les membres de Rose de Noël. « Oh, dit-elle, certainement, est-ce que vous en avez des nouvelles ?»« J'en ai, » répondit le monsieur. « Il vit donc encore ?»« Il vit encore. » Et la jeune fille hésita. On voyait qu'elle faisait un violent effort pour combattre une invincible répugnance. « Et Madame Gérard, » dit le monsieur de Montrouge, en relevant ses lunettes et en fixant sur elle de petits yeux perçants qui semblaient avoir la puissance fascinatrice du basilic. Mais en entendant ce nom de Madame Gérard, l'enfant se renversa en arrière en poussant un cri et, glissant de son siège, tomba en proie à une effroyable attaque de nerfs. « Diable, diable, diable !» fit le monsieur de Montrouge en replaçant ses lunettes sur son nez. « Qui va se douter que cette petite bohémienne a des nerfs comme une princesse ?» Et il essaya de la rasseoir sur la chaise, mais l'enfant se cambrait comme si elle eût été atteinte du tétanos. « Hum !» fit le monsieur en regardant autour de lui. « Voilà qui devient embarrassant !» Il aperçut le lit de Rose de Noël, prit l'enfant dans ses bras et la porta sur ce lit. « Ah, petite drôlesse, dit-il, de plus en plus embarrassé, a-t-on jamais vu pareille chose? S'arrêter juste à l'endroit le plus intéressant. » Il tira un flacon de sa poche et le lui fit respirer. Mais bientôt, comme si une nouvelle pensée se faisait jour dans son esprit, il éloigna du nez de l'enfant le flacon qu'il en avait déjà approché. « Ah, dit-il, il me semble que la chose se calme. » En effet, les mouvements du corps de la petite fille devenaient moins violents et les convulsions tournaient à un évanouissement pur et simple. L'inconnu attendit que le dernier frisson fût éteint et que Rose de Noël fût étendue sur son lit, aussi immobile que si elle était morte. « Bon, fit-il, tirons parti de la circonstance. » Et laissant Rose de Noël étendue sans mouvement sur le lit, il alla à une porte qu'il ouvrit. « Un cabinet sans issue, dit-il, puis ouvrant la croisée et cette fenêtre, il se pencha en dehors, 12 pieds à peine. Enfin, allant à la porte d'entrée, il enleva d'une main la clé de la serrure, pendant que l'autre tirait de sa poche un morceau de cire, et approchant ses deux mains, il prit l'empreinte de la clé avec de la cire. « Ma foi, dit-il, c'est encore bien heureux que la petite fille se soit évanouie. Nous aurions été obligés de procéder par appréciation, et c'est toujours moins sûr. » Tandis que maintenant, il regarda l'empreinte qu'il compara à la clé. « Tandis que maintenant, dit-il, nous procéderons à coup sûr. » Et remettant le morceau de cire dans sa poche et la clé dans la serrure, il referma la porte en disant « Allons, il faut toujours en revenir à ce bon monsieur de Voltaire. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. » Et cependant, l'inconnu se gratta l'oreille comme un homme qui flotte entre un bon et un mauvais sentiment. Le bon, chose rare, l'emporta. « Et cependant, dit-il, je ne puis abandonner cet enfant dans un pareil état. » En ce moment, on frappa à la porte. « Qui que vous soyez, entrez, sacredieu, dit le monsieur. » La porte s'ouvrit, en effet, assez violemment même, et Ludovic apparut. Ah, « Bravo, dit monsieur de Montrouge, vous arrivez diablement à propos, mon jeune esculape, et si jamais médecin a répondu à l'appel, vous pouvez vous vanter que c'était vous. »« Monsieur Jacal, dit Ludovic, stupéfait. » »« Pour vous servir, cher monsieur Ludovic, dit l'homme de police en offrant au jeune homme une prise dans sa tabatière. » Mais Ludovic repoussa la main de monsieur Jacal et, s'approchant du lit, « Monsieur, dit-il, comme s'il avait le droit d'interroger, qu'avez-vous donc fait à cet enfant ?»« Moi, monsieur, répondit monsieur Jacal avec douceur, absolument rien, mais il paraît qu'elle est sujette à des spasmes. »« Sans doute, monsieur, mais pas sans cause. » Et tremblant son mouchoir dans un pot plein d'eau, Ludovic l'appliqua en le tamponnant sur le front et les tempes de la jeune fille. « Que lui avez-vous donc dit? Que lui avez-vous donc fait ?» « Fait rien, dit peu de choses, répondit laconiquement monsieur Jacal. « Mais enfin, mon Dieu, mon cher monsieur Ludovic, vous savez que les mendiants, sorciers, nécromanciens, montreurs de lanternes magiques, bohémiens et tireurs de cartes ressortissent à ma juridiction. « Oui. « Eh bien, la brocante ayant oublié, en déménageant avec ses chiens et sa corneille, de me faire part du nouveau quartier, où il lui avait plu d'élire domicile, j'ai dû mettre mes hommes à ses trousses. Ils ont découvert qu'elle demeurait rue d'Ulm et m'ont fait leur rapport. Alors, comme je la sais des amis de M. Salvator, que j'aime de tout mon cœur, au lieu de la lui faire prendre et conduire à la salle Saint-Martin, ainsi que c'était mon droit et même mon devoir, je me suis présenté chez elle. Mais il paraît que depuis un instant elle était sortie, suivie de ses chiens et de sa corneille, de sorte que j'ai trouvé la maison vide avec la porte ouverte. Je me suis mis aux recherches, j'ai aperçu un escalier, j'ai monté cet escalier, j'ai frappé à une porte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Entrez, on me l'a dit à moi, comme vous avez fait, j'ai dit. Seulement, au lieu de trouver la petite rose de Noël évanouie, je l'ai trouvée assise à cette table en coloriant des gravures. En l'absence de sa mère, et pour ne pas avoir fait une course inutile, je l'ai interrogée. Mais voilà qu'en me parlant de son enfance, de ses parents, d'une certaine Madame Gérard, qui lui était je ne sais quoi, elle s'est évanouie. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai portée sur son lit, et je venais de l'y déposer bien délicatement, comme vous voyez, mon cher monsieur Ludovic, quand le bonheur vous a amené. » Tout cela paraissait si simple et si naturel que Ludovic ne douta pas un instant que la chose se fût passée ainsi. « Eh bien, monsieur, lui dit-il, si maintenant vous avez de nouveaux doutes sur la brocante, nous sommes prêts à en répondre, monsieur Salvatore et moi. C'est donc à nous qu'il faudra vous adresser. » Monsieur Jacqual s'inclina. « Sous un pareil patronage, monsieur Ludovic, dit-il, ah, mais je crois m'apercevoir que l'enfant fait quelques mouvements. » En effet, dit Ludovic, qui avait continué à humecter le front de Rose de Noël, je crois comme vous qu'elle va rouvrir les yeux. En ce cas, dit M. Jacqual, je me sauve. Peut-être ma présence lui serait-elle pénible. Dites-lui bien, je vous prie, M. Ludovic, tous mes regrets d'avoir été la cause innocente d'un pareil accident. Et après avoir offert une seconde prise à Ludovic, seconde prise que le jeune médecin refusa comme la première, M. Jacqual sortit, en effet, de la chambre, avec un geste qui indiquait son désespoir d'avoir causé un tel trouble dans la maison de l'ami de Ludovic et de Salvatore.